Exemple. Vous avez un souci administratif ou un conflit avec un fournisseur ou un salarié. Difficile de faire face. Zéro tracas. MMA répond simplement à vos questions et prend en charge les frais engagés pour la défense de vos droits. Chez MMA, nous avons les réponses. Posez-nous les questions. Rendez-vous dans une agence MMA pour un diagnostic gratuit de vos besoins en assurance. À bientôt.
Zéro tracas, zéro blabla, MMA.
Offre soumise à condition.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public dans le Cantal ce soir à Plot à 18h30 et demain à Mauriac, 18h30 également. À très bientôt dans le Cantal.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Voici le message. Au programme du gouvernement, pour les riches, des couilles en or. Pour les pauvres, des nouilles encore.
À bientôt sur les services d'Orange.
Bonjour, alors moi pour savoir exactement combien il y a de manifestants dans une manif, je propose la remise des dossards la veille, un peu comme le marathon de Paris. Moi j'aurai le mien à la manif du 2, hein. J'aurai le dossard 3 millions.
Oui, bonjour, je vous appelle au sujet des salles de shoot. Alors, moi je ne suis pas pour ni contre les salles de shoot, mais donc dans le même ordre d'idée, on pourrait ouvrir des salles de torchade où les gens puissent se torcher avec leur alcool frelaté sans risquer de tomber sur le parking de leur supermarché premier prix. Et il pourrait également y avoir des salles où ils respirent leur colle sans risque d'incendie. Puis pour les caféinomanes, des salles où on ne se renverse pas la cafetière dessus et on peut en boire 2 litres, etc. Quoi, voilà, etc. C'est pas exhaustif, donc il ne faudrait pas s'arrêter aux salles de shoot. Un bon après-midi à tous, ciao.
Oui, bonsoir Daniel. Je viens d'entendre donc ton émission là sur la manif. C'est étonnant, mais c'est même plus que ça, que le gouvernement n'entende pas. C'est du dédain, du mépris. C'est stupéfiant, dangereux, grossier, hermétique, vaniteux, prétentieux, imbu. Tous ces qualificatifs pour Sarko, Fillon, Copé, Morano et les autres. J'en ai marre de cette situation. C'est honteux ce qui nous arrive. Jamais, jamais il y a eu autant de dédain. C'est impossible. Allez, c'était mon coup de gueule. C'est Michel Dugard. Merci beaucoup, Daniel.
Salut les AMG. Le repère de Briouze dans l'Orne aura lieu ce mercredi 29 septembre à 17h30 au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Le 29 à 17h30 à Briouze. Salut.
Bonjour, c'est Pascal, je suis chauffeur routier. J'écoutais votre émission du jour, nous sommes vendredi. Et c'est intéressant de voir que dans une entreprise comme la SNCF, les gens hésitent à faire grève par rapport à leur avancement de carrière. Alors essayez d'imaginer dans les petites boutiques de 10 ou 20 personnes, il n'y a pas de syndicat, de dire à son taulier, tiens, je vais faire la grève. Dans les 15 jours qui suivent, on peut chercher du boulot. Puis pour le type là qui dit qu'il en faut des riches, bah, qu'il aille se faire voir chez les Grecs, lui, déjà. Et puis ce que j'ai pas compris aussi autre chose, pourquoi tous les syndicats là ont pas mis les transports routiers sur le pied de guerre et qu'on bloque la France? Ça serait le top, là, Sarkozy en 2 secondes, il arrêterait tout, quoi. Salut.
Oui, bonjour. Je voudrais simplement rappeler, en ces temps de grève, qu'il n'y a pas que des multinationales et des services publics ou assimilés en France, mais aussi des milliers d'entreprises, des PME, des artisans, des petits commerçants qui ont moins de 50 salariés. Donc, ce que je viens d'entendre là à l'instant sur France Inter, dans l'émission d'aujourd'hui, le 24 septembre, avoir le courage de faire grève, pour certains de ces établissements, en tout cas les gens qui y travaillent, la question ne se pose même pas, c'est impensable.
Salut Daniel et toute l'équipe, Laurent du 33, ouvrier sur une toute petite propriété agricole, qui fait partie de ceux qui ne font pas grève et qui ne manifestent pas, mais qui regarde le soir aux infos avec beaucoup de reconnaissance et autant de culpabilité, tous ceux qui sont descendus dans la rue. Mais le 3 octobre, ce samedi, j'irai enfin battre le pavé pour la première fois pour renvoyer l'ascenseur à tous les autres frères d'armes et puis un peu gueuler contre cette réforme indigne et dégueulasse avec l'espoir que la grande troupe des taiseux, des sangrades de l'agriculture en fera autant.
Je vous appelle car on va profiter aujourd'hui qu'il y a une grande activité à Pessac, à Folmanoir, avec la inauguration de la bibliothèque Pablo Neruda, on va profiter pour faire une dénonciation pour les Indiens Mapuche qui sont en grève de la faim. Ça fait déjà plus de 70 jours. Je suis bien intéressée si vous pouvez me contacter, car il faut parler d'eux parce que personne ne parle beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup les Indiens Mapuche. On en parlera dans la série qu'on va consacrer, je pense, à partir de lundi prochain au Chili. En effet, on en a parlé quand on était là-bas au Chili. S'il y a ces 33 malheureux mineurs au fond de la mine, il y a de l'autre côté du pays, enfin au sud de Santiago, 34 militants mapuches qui sont en grève de la faim, qui sont aujourd'hui dans leur certains d'entre eux au moins leur 75e jour de la faim, pour manifester contre des lois scélérates, des lois antiterroristes qui datent de la dictature de Pinochet. Donc effectivement, cette lutte des Indiens Mapuches, on l'évoquera la semaine prochaine. Aujourd'hui, pendant que nous étions avec Antoine Chao au Chili, dans notre dos, il s'est passé beaucoup de choses dans l'équipe de là-bas, si j'y suis, on ne peut pas vous le cacher. Voilà, faut pas partir comme ça très loin, parce que pendant ce temps-là, eh bien, les gens de l'équipe ont de drôles d'idées, de très très drôles d'idées, et c'est ces très très drôles d'idées qu'on va entendre aujourd'hui, parce que ces drôles d'idées, ben, se sont manifestées dans une manifestation, celle de la semaine dernière. Vous allez être très très surpris par nos reporters qui désormais s'appelleront François Bonnet et Pascal Potiche. Voilà, vous allez comprendre, pour l'instant c'est un peu flou, qu'est-ce qu'ils nous racontent aujourd'hui. Vous ne perdez rien pour attendre. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est un faucheur de maïs OGM qui passe en procès à Marmande le 11 et 12 octobre. Nous sommes 87 prévenus dans l'affaire de Ménara. Une petite visite de ta part, Daniel, serait la bienvenue. Sans oublier le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, déclarée par les Nations Unies. Via Campesina invite à des journées d'action contre les semenciers. Merci Daniel, à bientôt.
Citoyens, ni aux urnes, ni aux armes, ni aux ordres. Si vous pensez qu'un autre monde est possible et que les chemins pour le construire sont à notre portée, pourvu qu'on le veuille, venez au Café Repère de Castres, dans le Tarn. C'est au Zazoubar, chez Alberto, place de l'Albinque, à 19h19 pétante. Ce mardi 28 septembre, le thème, rentrée sociale, agir ensemble. Amenez de quoi grignoter et on partagera ensemble, justement. Salut à tous, c'est Anna.
Salut Daniel, salut à tous les AMG, c'est Émilie de Haute-Loire. Voilà, je laisse un petit message parce que ça fait plusieurs mois que je t'écoute avec intérêt derrière mes fourneaux. Je me suis dit que ça suffisait de juste écouter, qu'il fallait essayer de passer à l'action localement. Il n'y a pas de café repère là autour de chez moi, donc je me propose d'en lancer un. Passera au Puy-en-Velay ou dans les alentours. Je crois que c'est pas un projet que je peux porter toute seule. Alors j'appelle les Altiligériens qui seraient intéressés pour me rejoindre dans cette démarche à me contacter via une petite adresse internet que j'ai créée qui s'appelle amg-haute-loire-loire@hotmail.fr. amg-haute-loire@hotmail.fr. À très bientôt et que la lutte continue. Ciao.
Daniel et les AMG, bonjour. Je pourrais vous signaler qu'il y a 40 ans jour pour jour avait lieu le plus gros massacre dans toute l'histoire des Palestiniens, dit le massacre de Septembre Noir, qui a été perpétré par les forces jordaniennes sous les ordres du roi Hussein de Jordanie. Donc c'est juste pour signaler que c'était pas des Israéliens, c'était des Jordaniens. On a légèrement oublié ça dans l'histoire contemporaine. Au revoir.
Le prochain repère du Pays d'Aix se tiendra ce mardi 28 septembre à l'heure habituelle, 19h30, à la brasserie Le Festival, en bas du cours Mirabeau. Ce mardi, nous reviendrons sur les Roms et la pratique du bouc émissaire. Un intervenant de la LDH, Ligue des droits de l'homme, sera là. C'était Frédéric, bonsoir.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Le Café Repère de Genève a lieu tous les derniers lundis du mois au Café Gervaise, 4 boulevard James Fazi. Ce lundi 27 septembre, nous nous réunirons à 20h en présence de membres du mouvement La Gauche Anticapitaliste. Le thème de notre discussion sera « Quelle gauche aujourd'hui ? Comment construire une pensée de la rupture ?» Nous attendons donc nombreux pour ce premier repère de la rentrée à Genève. C'était José, salut à tous.
C'est une plaisanterie, c'est une blague ?
Mais non, pas du tout.
Vous êtes à l'UMP, vous ?
Oui, bien sûr.
Oh, ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis de pape. C'est quoi votre truc ?
J'espère que ça va vous convaincre de partir de cette manifestation, monsieur.
C'est pas vrai, ça. C'est une blague.
Mais pas du tout.
Vous avez pas honte de porter ça ?
Pourquoi ? Faut assumer ses idées, monsieur.
Je sais pas, hein ?
Même quand on est en minorité, on peut assumer ses idées, non ?
Non, mais le gros chèque, vous, il est de combien, le gros chèque que vous avez eu ? Parce que vous avez pas travaillé dans votre vie, vous. Vous savez, les gens qui ont travaillé, qui sont usés physiquement par le travail, vous connaissez des gens comme ça ? Dites-moi des prénoms de gens usés par le travail. Dites-moi-en.
Je sais pas, monsieur, j'en ai pas qui me vient à l'esprit à l'instant.
Allez voir dans les hôpitaux, chez les gens âgés, et puis demandez-leur ce qu'ils ont fait. Vous avez rien fait, là, regardez, vous êtes toute jeune, là. Et vous êtes levé à quelle heure ce matin ? Répondez !
Mais moi, je travaille, moi, aujourd'hui,
pendant que vous faites grève. Ah oui, mais moi, je me suis levé à 3h40, moi, et je suis là.
Pourquoi 3h40. Vous êtes levé si tôt, monsieur ?
Bah, pour aller au boulot, tiens.
Mais qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Ah bah, ça, je vous le dirai pas.
C'est difficile ?
Oui.
Et vous vous levez tous les jours à 3h40 du matin ?
Bah, pas tous les jours, mais une semaine sur deux. Mais je vous dis, allez voir les gens. Allez voir les gens qui sont âgés, regardez les gens qui sont âgés et qui sont là, et puis demandez-leur. Rien que de se lever à cette heure-là. Quand est-ce que vous vous êtes levé à cette heure-là, la dernière fois, pour partir en vacances ? Hein ? Pour partir en vacances ?
Ah, je pense que ça m'est déjà arrivé de me lever à cette heure-là pour...
Bah oui, mais moi c'est toute la semaine, et puis la semaine prochaine d'après-midi, et après l'autre semaine je recommence. Et comme ça jusqu'à encore 15 ans. Vous voyez, encore 15 ans comme ça.
Mais ça va être inscrit dans la pénibilité, monsieur. Vous pourrez partir plutôt à la retraite.
C'est pas vrai, puisque les gars qui sont censés avoir un travail pénible, faudra qu'ils le prouvent que c'était pénible, qu'ils sont handicapés. Il faudra qu'ils aillent voir la médecine du travail. Or, la médecine du travail, elle vient de passer sous l'autorité du patron. Donc c'est un baisse-couillon de première classe. Puis c'est dégueulasse. Et ces mecs-là, on veut les user jusqu'au bout. C'est dégueulasse. En tout cas, vous êtes culottés, vous, hein, de distribuer un tract pour Sarkozy dans une manif comme ça. On ne défend pas le même côté. Toi, tu défends les patrons. Moi, je suis du côté des travailleurs.
Elle défend rien, elle vient de naître.
Distribuer Sarkozy, c'est défendre les patrons. Comme quoi, les manifestants, ils sont quand même bons enfants, parce que ce genre de provocation...
Elle a pas peur, c'est déjà ça.
Ouais, elle est courageuse, elle a un joli sourire.
Elle est sentiente.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, avec François Bonnet et Pascal Potiche, les jeunes papes.
Bon, Daniel, il est 21h, la nuit est tombée sur Paris, et je sais pas comment ça se fait, mais ça tombe toujours sur moi. Là, je me rends au siège de l'UMP pour passer ma nuit à coller des affiches en cette veille de manif avec les jeunes papes. Les jeunes populaires de l'UMP pour la réforme des retraites, contre les manifs, avec le président des jeunes pop, Benjamin Lancard, notamment célèbre pour le Lip Dub. Tu sais, cette chanson où tous les ministres chantaient le Lip Dub de l'UMP. Là, on va rentrer au siège de l'UMP avec deux grandes banderoles dessus. La France change, le mouvement populaire. C'est fermé. Gardien qui va nous ouvrir.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur, je suis journaliste pour France Inter, j'ai rendez-vous avec Benjamin Lancard.
Oui.
Merci.
Bonjour. Vous demandez de patienter à l'accueil.
Bonjour.
là dans l'entrée, il y a le magazine du Mouvement Populaire avec Xavier Bertrand qui serre la main à Eric Woerth. Réussir une réforme juste et responsable.
Eh oui, vous avez compris, vous avez déjà compris. Les reporters de là-bas, si j'y suis, retournent leur veste. Tout simplement. Tout simplement, pourquoi retournent-ils leur veste? Parce que, eh bien, les mensonges sont vraiment trop nombreux. Les mensonges du Parti Socialiste, par exemple. Le PS n'a aucun courage et reste totalement irresponsable. Mensonges, démagogie, irresponsabilité, voilà ce qui caractérise le PS. Voilà pourquoi le Parti Socialiste n'est pas qualifié pour gouverner notre pays. Quelques phrases issues de la prose des jeunes pop. Vous avez compris, les jeunes pop, ce sont les jeunes de l'UMP. Ils sont l'un d'eux s'est rendu célèbre, Benjamin Lancard, pour avoir écrit et être à la base de ce formidable, effectivement, Libdop. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec François Ruffin et Pascal Pascariello? Eh ben, c'est passer de l'autre côté, passer de l'autre côté, du côté de ces jeunes à la veille de la manifestation de jeudi dernier. Comment vivent-ils ça? Comment voient-ils ça? Que disent-ils? Et au fond, qui sont-ils? Ça nous a intéressés pour une fois de retourner notre veste. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Tous ceux qui veulent changer le monde,
chant de fraternité.
J'entends la révolte qui gronde
au cœur de toute l'humanité.
Pour que la terre soit féconde
à tout ce qu'elle a enfanté,
il est nécessaire que l'on fonde
une nouvelle société.
Tous ceux qui veulent changer.
Je vais aller récupérer les tracts de l'UMP.
Excusez-moi, oui. J'ai le droit de rentrer?
Oui, ça dépend, vous avez fait quel sujet?
Pour aller à la boutique, et parce qu'on m'a dit que je pouvais prendre juste une dizaine de tracts, c'est tout, pour me dépanner. Et pour la boutique?
C'est pour
un t-shirt, ou de t-shirt, bonjour. Ah bah peut-être en plus vous pouvez me donner des arguments, vous.
Oui, sur quoi?
Alors voilà, parce que demain on tracte.
Oui.
Et moi je vous avoue, je suis pas encore au point.
Sur
et
la réforme?
Ouais.
Là-dessus, honnêtement, il y a déjà...
Il y a déjà tout
ce qu'il faut pour comprendre les mécanismes de la réforme. Et vous avez les réponses à donner aux arguments de la gauche.
Le problème, c'est que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez dû lire la presse comme moi hier, hier, il y avait un autre sondage qui disait que 70% des Français étaient contre le cœur de la réforme des retraites.
Vous avez la réponse.
Et alors, c'est quoi la réponse?
C'est marqué là.
79% des Français estiment que le financement est un problème grave, le financement des retraites.
Mais dans le fond, les gens sont quand même conscients qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre.
Donc en fait, il vaut mieux mettre en avant ce sondage-là, quoi, sur le problème financier.
Ouais.
Est-ce que vous avez des arguments par rapport à Eric Woerth et au bouclier fiscal? Parce que ça revient tout le temps.
Par rapport à Eric Woerth, il faut dire qu'il n'y a pas d'affaire Eric Woerth. Ça fait 4 mois que les journaux en parlent. Il n'y a pas d'affaire Eric Woerth. Voilà.
D'accord.
Tout simplement. Vous vouliez un t-shirt?
Je vais en prendre un pour Monsieur Daniel et un pour François qui fait ses débuts.
Donc deux bleus, un M, un L. Ouais. Je vais aller chercher à la réserve parce que j'en ai plus ici. Mmh. Vous voulez quoi d'autre?
Deux roses aussi, deux pour roses. Deux filles.
À 19 euros. C'est sa chauffe demain, retirez-vous. N'insistez pas.
Vous pensez que les manifestants, ils peuvent nous bousculer ?
Comment ?
Vous pensez que les manifestants, ils peuvent nous...
Si vous êtes au cœur de la manifestation, enfin, n'y allez pas. N'allez pas tracter la manifestation. Ceux qui manifestent, on aura beau leur expliquer, ils manifesteront toujours.
D'ailleurs, c'est ce que je demandais à la jeune fille, si vous n'aviez pas un sac en plastique pour que je mette les tracts dedans, parce que si je me balade dans le métro avec la retraite, c'est juste et indispensable, j'ai envie de me taper dessus.
J'ai des choses.
Ah ben ça quand on en poubelle, ouais, voilà. Sa poubelle c'est parfait.
Ouais voilà.
On met des tracts de l'UMP. Merci, au revoir.
Voilà. Pascal s'initie, cherche des arguments, elle apprend énormément de choses. Il n'y a pas, d'affaire Wörth. Elle dépense 19 euros sur le budget de l'équipe de la Bastille qui suit et elle repart avec des tracts des jeunes pop, des jeunes de l'UMP, dans un sac poubelle. Et que fait exactement François Bonnet Ruffin pendant ce temps-là ?
C'est vrai que ça y est, ça commence ?
Parce que monsieur est très à gauche, hein, son émission est extrêmement dure.
Ah, moi je suis l'aile droite de l'émission.
C'est vrai ?
Pour faire un peu de pluralisme.
Alors comment on y va là ?
Donc là, on vient de quitter le siège de l'UMP au 55 rue Liabo ici. On est dans la voiture du président des jeunes populaires, Benjamin Lancard, également conseiller régional Île-de-France, et qui est surtout célèbre dans la France entière pour comme parolier finalement. Vous êtes le parolier du Libdub. Vous sauriez encore le chanter, le Libdub ?
Alors ouais, mais je sais, en un an, ma voix a perdu de sa fraîcheur, mais tous ceux qui veulent réformer les retraites, venez chanter, venez coller avec nous à Créteil ce soir.
Parce que c'est les vraies paroles, c'est tous ceux qui veulent changer le monde, voilà. Venez marcher à nos côtés.
Exactement. Donc là,
on a presque l'impression que c'est une invitation pour aller en manif, ça, non ?
Non, c'est une invitation à militer, parce que militer, ça change le monde. Et c'est vrai que tous les militants qui sont là dans cette voiture ce soir, on a envie d'avoir une France compétitive qui n'est pas la risée du monde. Et donc c'est vrai que ça nous fait bizarre quand on a des amis étrangers ou qu'on voyage et que les gens nous disent qu'il y a 2 millions de personnes dans la rue pour 62 ans de retraite, parce que dans des pays d'ailleurs socialistes comme l'Espagne ou la Grèce, c'est déjà 67 ans.
À Benjamin Lancard, vous êtes conseiller régional Île-de-France, mais enfin, à côté de ça, vous êtes étudiant encore ?
Je suis étudiant en dernière année du Master Affaires Publiques.
Pierre-Henri, pardon.
Je suis étudiant à Sciences Po aussi. Je vais commencer une préparation à l'ENA, donc un an de préparation au concours administratif.
Comme Benjamin qui prépare l'ENA aussi, c'est ça ?
Après 2012, pas maintenant.
Président d'abord, l'ENA après ?
Bah non, mais d'abord vivre une présidentielle à fond pour faire gagner Nicolas Sarkozy, et puis après, oui, l'ENA c'est un rêve, moi, mais c'est dur, il faut travailler.
Et depuis quand ça date alors votre engagement ?
Moi, en fait, en maternelle, je voulais devenir Jacques Chirac. C'était mon rêve quand on me demandait.
Vous avez déjà presque les lunettes.
Oui, enfin. Mais le déclic, ça a été 2007, la campagne présidentielle. J'ai assisté à une campagne où j'ai vu de nouveaux idéaux naître, une nouvelle génération arriver. Je suis nouvel adhérent, en fait.
On est vraiment à un moment où il y a des gens qui ont décidé d'abattre Nicolas Sarkozy. Et moi, je dois vous le dire, notre mobilisation ce soir, elle montre bien que ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas notre passion pour Nicolas Sarkozy et pour nos valeurs de droite parce que des gens ont essayé de refuser le fait que Nicolas Sarkozy a été élu à 53% des voix.
Et alors, d'où vient votre passion, Benjamin, pour Nicolas Sarkozy ?
On a un homme qui donne envie de croire en la politique. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez la crise géorgienne, que tout le monde est prêt à faire des communiqués dans les chancelleries, mais que personne n'est prêt à aller sur le terrain, mais que lui, il y va, et que grâce à lui, Tbilissi n'est pas devenu un satellite russe, je crois qu'il faut saluer la performance et le courage politique. Pareil sur la crise économique. Enfin, personne aujourd'hui dans ce pays ne pense que Ségolène Royal aurait mieux fait. Personne. Donc voilà, je pense que les gens au fond d'eux-mêmes savent que sans lui, on serait dans une situation bien plus critique. Donc voilà d'où vient cette passion. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques rendez-vous avec lui. Quand vous le voyez, qu'il vous parle de la manière dont il voit le pays, dont il voit sa politique, ça vous donne une énergie énorme parce que vous comprenez la force de cet homme et l'ambition qu'il a pour notre pays. Et c'est franchement quelque chose qui m'attend. Mais vous savez, moi, je suis persuadé que Dans quelques années, on se rendra compte à quel point cet homme écrit l'histoire. Il mérite une grande place dans les livres d'histoire que nos enfants auront. Donc j'espère surtout que la France sera reconnaissante au travail qu'il fait.
Le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer, promettait le candidat Sarkozy dans une interview au Monde en janvier 2007 et engagement renouvelé sur RTL en tant que président cette fois en mai 2008. Il est interrogé sur une proposition du MEDEF de passer l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans et demi.
Je dis que je ne le ferai pas. Pour un certain nombre de raisons, et la première, c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français. Je n'ai donc pas de mandat pour faire cela. Je me suis engagé à faire et à mettre en œuvre tout ce que j'ai promis. Je n'ai pas parlé des 63 ans et demi.
Alors moi, quand je parle aux copains de la réforme des retraites, ils me sortent une phrase de Nicolas Sarkozy. En 2007, donc pendant la campagne présidentielle, il dit « je ne toucherai pas à la retraite à 60 ans ». Et le 27 mai 2008, un an plus tard, sur RTL, Nicolas Sarkozy déclare « Je ne toucherai pas au principe des 60 ans parce que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne. Ce n'est pas l'engagement que j'ai pris devant les Français. Je n'ai pas de mandat pour ça et ça compte pour moi. » Alors comment ça se fait que deux ans plus tard...
Il y a deux choses qui sont intervenues pendant cette période et qui font qu'il faut intervenir plus vite que prévu. C'est d'une part la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et deuxièmement, c'est la crise grecque d'endettement qui fait qu'aujourd'hui, si on ne réforme pas, si on n'est pas capable de montrer au marché financier qu'il y a vraiment un esprit de réforme dans ce pays et qu'on ne laissera pas les déficits aller comme ça a pu être le cas en Grèce, on va perdre notre triple A et c'est dangereux pour le pays. Donc voilà, c'est deux événements qui font un peu changer la donne. Alors après, moi je crois qu'il y avait de toute façon un engagement sur la rupture, sur le fait de pas mentir aux Français. Et donc dire la vérité aujourd'hui aux Français, c'est dire qu'il faut réformer la retraite. Voilà, je pense qu'on est toujours dans le chemin de la vérité. Et c'est juste, moi j'ai pas envie qu'un jour la France soit mise sous tutelle comme la Grèce a pu l'être, franchement. Enfin, j'ai d'autres ambitions pour ce pays et je considère que nous jeunes, c'est nous qui allons être les premiers sacrifiés si les gens qui demain manifestent, qui d'ailleurs soit dit en passant sont plutôt des retraités, pour y être allés, moi j'ai pas vu le moindre jeune. Voilà. Si demain ces gens-là sont... continue à crier et à demander le retrait, en fait c'est nous, notre génération, qui n'aura pas de retraite.
Aujourd'hui, moi j'ai fait le rêve d'une humanité. Wow ! Plus humaine, sans haine et sans méchanceté. Solo. Une humanité moins pourrie, où seulement les gens gentils seraient accueillis. Une humanité plus pure, où les gens méchants auraient la vie dure. Parce que je sais pas vous, mais moi les gens qui sont méchants, ils me foutent les boules. D'ailleurs, rien qu'à leur sale tronche, ça se voit qu'ils sont pas cool. Un jour, je vais plus tolérer de les voir passer devant ma maison. Et s'ils veulent pas comprendre, j'ai des solutions. Et tous ceux qui pensent pas que j'ai raison, je les bute.
Beaucoup au sérieux. Franchement, j'ai pas raison, non. Franchement, si c'est pour buter des méchants, ça va, on peut le faire, non, sans déconner, si c'est des méchants.
Bon, Daniel, cette nuit, après mon collage avec les jeunes militants du mouvement populaire, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup changé. Là, ici, on est à deux pas de Notre-Dame. Il y avait eu la conversion de Paul Claudel derrière le pilier de Notre-Dame qui avait eu une révélation. Moi aussi, en un sens. Donc j'ai beaucoup changé.
D'ailleurs, même visuellement, parce que je fais une parenthèse, François, vous portez un blazer, un pull et une petite chemise. Enfin...
Oui, je suis en tenue correcte, quoi. Et j'ai les tracts de Nicolas Sarkozy, j'ai le t-shirt des créateurs de Possible.
Et derrière, est-ce que... Possible,
c'est l'Union pour un mouvement populaire, avec marqué derrière, certains parlent de politique, d'autres agissent, et vous. Donc j'ai le t-shirt, j'ai les tracts. Je vais un peu défendre Nicolas Sarkozy et son programme de réforme des retraites à l'intérieur de la manifestation.
Dans le tract, il y a écrit quoi, c'est...
Il a besoin de vous, Nicolas Sarkozy a besoin de vous.
D'accord, alors on va essayer de faire adhérer d'autres personnes ou de leur expliquer peut-être la retraite, c'est ça, hein?
faut quand même qu'ils assument les réalités, quoi.
Allez, on y va.
Voilà, ils n'ont pas résisté à l'appel du président. Ces deux jeunes pop, dont vous reconnaissez peut-être la voix, en tous les cas, ils ont le courage militant de se mêler à la manifestation, c'était jeudi dernier, et de rencontrer et de dialoguer démocratiquement avec des manifestants.
Ben voilà, Gabriel me disait qu'il n'avait pas l'habitude de discuter avec les militants UMP.
Ce sera une première comme ça.
Ben allons-y, j'ai aucun espoir de te convaincre si t'es militant actif pour la cause de, du MEDEF et de l'UMP. Mais
il a besoin de vous, Nicolas Sarkozy a besoin
pour les auditeurs.
Alors venez tous les trois.
Thomas Coutreau, coprésident d'Attaque.
Et Gabriel, cheminot et militant à Sudrail.
François, donc j'ai suivi hier une formation rapide, on va dire, auprès des jeunes militants populaires de l'UMP, avec qui je suis allé faire un collage d'affiches. Comme le président des jeunes pop et puis ses camarades ne pouvaient pas être là, bon bah je suis là pour les représenter indirectement. Donc bon bah je distribue des tracts hein, sur devenez populaire, rejoignez le mouvement. Tenez madame, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, Nicolas Sarkozy a besoin de vous. J'ai accepté de venir un peu me mêler à l'extrême gauche. Mais alors, moi je veux dire, tout part d'un raisonnement simple. Je comprends pas comment vous pouvez considérer qu'on va garder la retraite à 60 ans. Les gens vivent plus longtemps, bah ils doivent forcément travailler plus longtemps, quoi. Il n'y a pas.
Oui, enfin c'est vrai que ça fait plus de 2 siècles que l'espérance de vie augmente hein, dans notre pays comme dans beaucoup d'autres. Ça n'a pas empêché qu'on conquiert les congés payés, la semaine la journée de 8 heures, la semaine de 35 heures, la réduction du temps de travail. C'est toujours fait en même temps que l'allongement de l'espérance de la vie. Donc il n'y a absolument aucune raison que ça change maintenant. Et cet argument est totalement bidon.
Raison, non. Il y a une raison quand même. Il y a une raison, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est intervenu là. Qu'on peut pas nier. Je veux dire, vous pouvez pas nier la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une crise économique majeure et que cette crise économique majeure là qui s'est déroulée. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même donner des signes au marché financier. La Grèce. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Grèce? Une mise sous tutelle de la Grèce. Est-ce que vous voulez vraiment que la France subisse de la même manière une mise sous tutelle de la part du FMI? C'est ça l'avenir que vous voulez pour notre pays? Bah moi, je dois dire que je nourris quand même d'autres espoirs pour mon pays.
Non, mais t'as raison de parler de la crise, parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé dans la crise? Parce que des banques ont spéculé avec l'argent des capitalistes et avec l'argent des riches de ce monde. Ça a mis le monde au bord de la catastrophe. Et à qui on a demandé de se serrer la ceinture? Est-ce que c'est aux banques qui sont coupables de la crise? Non. C'est aux salariés, par le biais des impôts et des énormes financements et subventions que l'État a donné aux banques, sans contrepartie. Et c'est maintenant, parce qu'on a payé les banques, qu'on devrait, pour assumer cette dette publique et compagnie, on devrait maintenant perdre sur notre âge de retraite. Non, c'est aux coupables de cette crise de la payer, c'est pas aux travailleurs.
Oui, enfin, il y a un déficit, c'est vrai, il y a un déficit de 30 milliards d'euros des retraites en 2010, mais en même temps, les entreprises du CAC 40 ont distribué 40 milliards d'euros de dividendes.
Tant mieux.
40 milliards ?
Tant mieux pour nos actionnaires, mais quand on nous dit que c'est la crise et qu'il faut que les salariés se serrent la ceinture, on peut se demander vraiment qui doit se serrer la ceinture. D'autant que la crise, elle vient pas de n'importe où, elle vient des banques, elle vient du système financier et elle vient de l'enrichissement considérable qui a été le résultat de ce système de libéralisation financière. Donc aujourd'hui, on dit, arrêtons avec ce système délirant qui rentre en crise, qui veut faire payer sa crise par les salariés, alors que lui-même, il se porte mieux que jamais. Les banques ont retrouvé des niveaux de profitabilité absolument équivalents à avant la crise, grâce à l'intervention de l'État. Donc tout ça commence à bien faire.
Mais alors que les paresseux gauchistes d'Attaque et de Sudrail profitaient de cette belle journée de grève pour prendre le soleil dans les rues de Paris, la veille au soir, Benjamin Lancard, le président des Jeunes Populaires, et quelques courageux jeunes militants UMP, eux, ne comptaient pas les heures supplémentaires. Jusque tard dans la nuit, ces courageux jeunes gens ont arpenté les rues de la capitale pour coller des affiches et défendre leurs idées.
Depuis quand t'es de droite, toi? Depuis quand tu sais que t'es de droite?
La question est marrante parce que quand on est jeune et de droite, on a l'impression qu'il faudrait presque faire un coming out. Ça n'a rien à voir, au contraire, on est très fiers d'être jeune de droite. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est plutôt paradoxal, c'est d'être jeune de gauche. Parce que, peut-être pas historiquement, peut-être qu'à un moment donné, la gauche a défendu le mouvement, le changement, et la droite était conservatrice. Mais aujourd'hui, la gauche incarne de la lâcheté. Et surtout, quand on est jeune en France, suivre la gauche, c'est l'assurance d'une France qui va d'abord privilégier les statu quo, donc les privilégiés et ceux qui ont des statuts aujourd'hui, c'est-à-dire les fonctionnaires.
Tu kiffes en fait.
Va t'acheter un klaxon.
Allez.
Un klaxon.
On y va, on va coller.
Ouais, c'est le col, ouais. Ah. Ça, c'est la colle qui lui manquait.
Donc l'affiche, c'est « J'ai 16 ans et je veux une retraite réformons ». Qui est-ce qui a 16 ans ici?
Moi, j'ai 16 ans.
L'Arcoche. Faire le mur.
Le mur sauvage, là-bas.
Ouais.
On
laisse les voitures, là-bas.
On laisse les voitures.
Alors, le plage sauvage, c'est interdit. Hein. Je le dis pour les éditeurs de France Inter, ne le refaites pas vous-même tout seul.
Mais alors, qu'est-ce qui l'autorise, là?
Oh, là, il y a une envie des militants et de la candidate certainement cantonale. Donc, si on était aussi sauvage que le collège des communistes... C'est bien que les gens demain, quand ils vont perdre leur temps à cause des grévistes, ils vont voir nos affiches. Au fond, ce soir, on est les porte-voix d'une majorité silencieuse. Celle qui, demain, va subir les attaques de beaucoup de lâches et d'irresponsables. Et au fond, voilà, ce soir, on donne une voix à tous ces gens-là.
C'est qui les lâches et les irresponsables, alors?
C'est les manifestants et les grévistes. Je pense qu'ils sont franchement irresponsables. Et c'est vraiment Sud Rail et FO.
Et bien le lendemain, pas plus tard que le lendemain, après une nuit blanche, à réfléchir et à sentir sa veste en train de se retourner, François Benet Ruffin rencontrait les lâches et les irresponsables.
C'est le défilé des lâches et des irresponsables aujourd'hui. Ça fait 30 ans que la gauche, elle aurait dû réformer les retraites. Des lâches et des irresponsables.
Non mais attends.
Alors là, il y a un petit groupe qui s'est formé autour de François.
Mais attendez, mais vous prenez pour qui pour traiter les gens de lâches? T'as fait quoi dans ta vie? T'as fait quoi jusqu'à présent dans ta vie? Tu fais quoi dans la vie?
Monsieur ne travaille pas encore. Monsieur ne travaille pas encore. C'est un jeune qui ne travaille pas. Et il traite les gens qui travaillent, qui aujourd'hui prennent sur une journée de salaire. Sur une journée de salaire, prennent.
Résister aussi, c'est un acte de bravoure. Mais je pense pas que tu l'aies fait un jour dans ta vie.
Attendez, monsieur, vous faites quoi? Vous venez.
Gréviste, moi, madame. D'accord? Je suis manifestant et gréviste, c'est tout. D'accord?
Mais il essaye de défendre ses opinions, c'est tout ce qu'il essayait de faire. Hein.
Non, mais il me traite de lâche, en attendant. D'accord? En attendant, il nous traite de lâche. Il dit que les gens qui sont dans la rue sont des lâches. Les travailleurs, là, il me semble que c'est ce que vous avez dit.
Je retire. Non, moi, je suis pour le dialogue, ça doit fonctionner. La démocratie, elle fonctionne à partir du dialogue. Mais je veux dire.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. Aujourd'hui, ton grand-père, mon grand-père, il s'est battu pour que tu aies la retraite à 60 ans, pour que tu aies 5 semaines de congés payés, que tu... Tout ça, 36, c'est nos grands-parents qui se sont battus. Tout ce que tu as aujourd'hui, la sécurité sociale, ça, c'est grâce aux caisses de la SNCF. Faut le savoir, parce qu'aujourd'hui, on dit la SNCF, etc. Il n'y avait pas de sécurité sociale dans le temps. Et c'est l'argent des boîtes privées qui étaient cotisées chez les cheminots qui ont été mis pour créer la sécurité sociale. Cet argent-là, on devait la rembourser, elle n'a jamais été remboursée. Tout ce que l'État emprunte, gauche ou droite, on s'en fout, tout ce que l'État emprunte dans différentes caisses où il y a de l'argent pour boucher les trous, jamais c'est remboursé. Et après on dit, la SNCF c'est en déficit, la sécurité sociale, il y a un trou abyssal. J'aurais juste rappelé, puisque tu veux parler un tout petit peu politique, que autant de Jospin, quand il était au gouvernement, la caisse de la sécurité sociale était redevenue dans le vert. Dès que Sarkozy est arrivé, il a augmenté les médecins, il a augmenté plein de choses, et on est replongé directement dans le rouge. Donc il faut un petit peu avoir... Et il n'y a pas à discuter, c'est la réalité.
Mais laissons les lâches et les irresponsables s'égosiller, et retournons en compagnie de Benjamin Lancard, président des Jeunes Populaires, qui, la veille de la manifestation, sillonnait inlassablement les rues de Paris, en quête d'emplacement pour placarder ses affiches.
Benjamin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de le partage de la valeur ajoutée, ça vous dit quelque chose? Le fait qu'il y aurait 9,3% de la valeur ajoutée, ouais, qui entre 1983 et aujourd'hui serait passé du travail au capital, c'est-à-dire en 1983, il y avait 74% de ce qui est du PIB en fait qui allait aux salariés. Aujourd'hui, il en reste 66%, donc on est passé de 3 quarts à 2 tiers à peu près. Et ces 9%-là sont allés en plus aux entreprises. finalement, là, ça représente des sommes absolument considérables. Hein. Ça représente à peu près 180 milliards d'euros par an, qui en 1983 allaient aux salariés, qui désormais vont aux entreprises. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas matière à l'utiliser, par exemple, pour financer les retraites, très largement pour financer les retraites ou...
Là, vous parlez d'argent du privé, donc c'est pas... Enfin, c'est pas nous qui décidons où va l'argent. C'est vrai qu'il faut quand même savoir que la politique, c'est pas, on n'est pas dans un état totalitaire. On est dans un état de libre droit et donc les entreprises, elles s'administrent sous des règles de fiscalité et des règles juridiques. Mais après, il y a aussi des choix d'investissement. En plus, moi, je vais vous dire, d'abord, enfin, ce résultat, moi, il m'étonne pas parce que le travail coûte de plus en plus cher en France. On a tout fait depuis les années 80. Vous parlez de 83 très justement. 83, c'est Mitterrand. C'est le moment où on fait tout pour que le travail coûte de plus en plus cher. La retraite à 60 ans, les 39 heures, les 35 heures. Enfin, globalement, on fait tout en France pour asphyxier le travail. Donc c'est évident que la valeur ajoutée va plutôt aller aujourd'hui au capital. Moi, je pense que pour que ça marche, ce qu'il faut, c'est qu'on incite désormais à ce que le coût du travail diminue très, très largement. Je pense que c'est à droite.
À droite.
Pour que ça diminue très, très largement. Et c'est pas nous qui claquons des doigts et disons, allez, la valeur ajoutée, s'il te plaît, tu retournes au travail. Nous, on ne voit pas l'économie comme une économie planifiée. Elle ne le sera pas avec la droite. J'espère qu'elle ne le sera jamais avec la gauche non plus. Bah voilà, un travail qui coûte moins cher, un travail qui est dans la flexi-sécurité, c'est-à-dire plus flexible, mais en même temps avec davantage de droits dès qu'on est en situation de recherche d'emploi. Bah voilà, moi, je vais vous dire honnêtement qu'on a un vrai problème du coût du travail dans ce pays. Et que ça, c'est un des grands enjeux, je pense, de la présidentielle de 2012. En tout cas, moi, je le souhaite.
Donc, vous dites qu'en fait, pour que la part des salaires soit plus haute dans la valeur ajoutée, il faut diminuer le salaire.
Il faut que le coût du travail diminue.
Voilà. Y avait une étude de l'INSEE en 2007 qui était sortie, qui disait qu'en 20 ans, donc entre 87 et 2007, les salaires avaient stagné en France, qu'il y avait une stagnation des salaires en France.
Alors, d'abord, il y a eu une hausse du pouvoir d'achat en France, il ne faut pas le nier. Qu'après, effectivement, il y a eu un enrichissement des plus riches, c'est un fait. Mais moi, vous savez, je rêve pas d'une société égalitaire, je rêve d'une société de l'égalité des chances. Et donc, pour moi, que tout le monde soit pas au même niveau à la fin, c'est pas ça qui me choque. Ce que je souhaite, c'est que chacun qui bosse et qui veut réussir dans ce pays puisse le faire.
Quand l'INSEE dit les salaires ont stagné pendant 20 ans, vous dites c'est pas vrai.
Il y a eu une hausse du pouvoir d'achat dans la durée. En tout cas, il y a clairement pas. Je crois qu'il faut arrêter de voir l'appauvrissement des Français.
Enfin, si jamais on disait, bon, bah, pour financer la réforme des retraites, on augmente la part des cotisations, il suffirait d'augmenter 3% d'ici 2020, par exemple, les cotisations retraites pour financer les retraites, ça, vous dites...
On croule déjà, on est le pays qui a, en Europe, le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe. Donc on va pas continuer à prélever de l'argent si on n'est pas capable de mieux le gérer.
Après 2 ans d'absence, découvrez vite le nouvel album de Michel Sardouille, La Rupture Tranquillou. La Rupture Tranquillou, c'est 14 chansons inoubliables, dont le déjà hit single Au boulot les feignasses.
Au boulot les feignasses, à la maison les pétasses, pour les clodos plus de vinasses. La rupture, faut qu'on la fasse, mais on la fera tranquillou. Comment les piles sont mineux.
Retrouvez aussi les sans-papiers cul.
Ils viennent squatter nos églises avec leurs filles qu'ils excisent. C'est dans la sacristie qu'ils chient. Car ils sont sans papier cul aussi.
La rupture tranquillou, le tout nouveau Michel Sardouille. Un disque obligatoire, sous peine de poursuite.
Ah, Michel Sardouille, un grand copain de Nicolas Sarcouille.
Et quand je pense qu'après ça, on recevra peut-être encore quelques messages, ça m'étonnerait, mais c'est possible, pour nous dire que nous manquons d'objectivité dans cette émission. Et pourtant, là, vous voyez les efforts que nous faisons avec François, avec Pascal, avec Inès, pour comprendre et de l'intérieur, comment ça se passe chez les jeunes pop. Eh bien, ça se passe très bien. Ils ont réussi à retourner François Ruffin devenu François Bonnet et Pascal Pascariello devenu Pascal Potiche.
On entend beaucoup gueuler là, non à cette retraite, non à cette retraite, non à cette retraite. Mais c'est quoi l'alternative qu'au fond ils nous proposent? Il n'y a pas d'alternative, parce qu'on entend contre la réforme, mais c'est quoi l'alternative?
Ah ben, les alternatives, c'est très simple. D'abord, à court terme, il faut taper là où il y a de l'argent. Donc il faut faire cotiser les dividendes, faire cotiser les stock options. Il y a 15 milliards à récupérer très rapidement de cette façon-là. Et puis ensuite, ben, il va falloir augmenter tranquillement les cotisations sociales, parce que c'est normal. Dans un pays où la population vieillit, où il y a le plus de besoins pour financer les retraites, eh bien, le système productif doit dégager les ressources pour le financer.
Enfin, quand même, là, on ne voit pas tellement de jeunes dans la manifestation.
Ouais, je ne sais pas ce qu'il vous faut, là. C'est plein de gamins. Hein.
Il n'y a que des vieux, mais ils sont drôlement en forme, hein, quand même. Hein. Pour des vieux, moi, je trouve qu'ils se portent bien. C'est ça qui est bien en France. Ça prouve que le système de protection sociale dont ils ont bénéficié les a amenés jusqu'à cet âge en pleine forme. C'est ça qu'il faut sauver.
Mais là, vous êtes en train d'endetter le pays. C'est les générations futures qui vont payer. C'est nous qui allons payer pour vous encore pendant 20, 30, 40 ans. Vos retraites, elles sont financées par nos salaires bientôt.
Bah écoutez, il y a une solution très simple. Hein. Nous, ce qu'on propose, c'est que la Banque Centrale Européenne finance directement les États au lieu de passer par les marchés financiers et qu'on fasse par la création monétaire. Et donc, du coup, on pourra éponger tous les déficits très tranquillement au lieu d'engraisser les investisseurs financiers comme on le fait aujourd'hui avec la dette publique. Vous savez que ça coûte 40 milliards par an, la dette publique, et ça va dans la poche de qui? Ça va dans la poche des investisseurs financiers. Et c'est vos impôts. 40 milliards, c'est pratiquement ce que rapporte l'impôt sur le revenu en France. Vous trouvez ça normal que l'entièreté de la recette de l'impôt sur le revenu aille dans les poches des investisseurs financiers?
Faut réduire les dépenses des privilégiés, des fonctionnaires et puis tout ça, quoi.
Ben, je ne sais pas si on a la même idée de ce que c'est que les privilégiés dans cette société. Est-ce que c'est les enseignants, les infirmières ou est-ce que c'est les actionnaires du CAC 40?
Ouais, ben, c'est toujours un peu facile, actionnaires, les faire payer. Après, ils vont partir, on va se retrouver sans entreprise en France, on aura l'air malin, quoi. On va être la risée du monde. Là, aujourd'hui, on est à la risée du monde. Partout en Europe, ils sont passés à 65, 67 ans. Dans l'Espagne socialiste, dans la Grèce, ils sont passés à 65, 67 ans. En Allemagne, qui est en pole position, ils sont passés à 65, 67 ans. Et là, on voit les Français râler pour passer à 62 ans, quoi.
Bah, je peux vous dire que dans toute l'Europe, les syndicats, les mouvements sociaux, les citoyens, ils sont très contents de voir ce qui se passe en France et ils espèrent qu'on va gagner parce que ce serait une manière d'interrompre ce cycle de régression sociale qui est en train de balayer toute l'Europe.
Un marteau. J'ai pleuré la nuit.
Ah, enfin les idées courageuses et responsables commencent à faire leur chemin dans les têtes butées des manifestants. Mais ces bonnes idées, François Ruffin en a été inspiré la veille au soir, alors qu'il collait des affiches en compagnie de Benjamin Lancard, président des Jeunes Populaires.
Tout à l'heure, Benjamin, tu parlais de la gauche comme le parti du statu quo.
Ouais.
Est-ce que, je sais pas, mais la droite, il n'y a pas là un peu le statu quo des fortunes? C'est-à-dire avec la mise en place du bouclier fiscal d'une part, avec la suppression de l'impôt sur les successions d'autre part, avec les niches fiscales qui permettent de quasiment supprimer ou annihiler l'impôt sur les fortunes. Est-ce qu'il n'y a pas une reproduction automatique du patrimoine?
Alors d'abord, là vous avez quand même une vision de l'impôt qui est un peu celle de Robin des Bois, donc ça c'est pas la nôtre. Nous, on considère que l'impôt, c'est pas prenons aux riches pour donner aux pauvres. Enfin, ça c'est vraiment pas notre manière de voir les choses. D'abord. Deuxièmement, nous on défend pas le statu quo, on défend l'égalité des chances. Et donc on veut que l'argent public permette aux gens d'avoir une éducation qui permette à tous, quel que soit son milieu, d'avoir la même chance de réussir. C'est ça être de droite aujourd'hui. Moi je pense que ne rien vouloir réformer, ne jamais vouloir changer les habitudes de telle ou telle corporation, c'est effectivement maintenir le statu quo qui est favorable à une toute petite minorité. Et encore une fois, moi je suis fier qu'on ait supprimé les droits de succession. Et donc par exemple, quand on dit qu'on va lutter contre les fraudes et les abus dans tout ce qui est l'assurance sociale, le chômage. Si on cherche à avoir à chercher un emploi et au final pour simplement vivre dans la cistana et dans l'oisiveté, alors le système éclate. Donc, vous voyez, et auquel cas, on privilégie toujours les mêmes, c'est-à-dire les fonctionnaires.
Mais alors, par exemple, vous dites les privilégiés, quand on calcule le taux d'imposition de Liliane Bettencourt, ouais. Il est entre 5 et 10%. Moi, je payais rien qu'en impôt sur le revenu 15,5% avant d'avoir un enfant. Mais est-ce que c'est juste ça ?
Oui, c'est juste parce que d'abord, la question, c'est pas quel pourcentage d'impôt on paye tous. On paye pas tous le même taux d'impôt et on paye pas tous la même somme à la fin. Et voilà, cette femme, elle a contribué à la richesse de notre pays et que les quelques 600 millions d'euros que nous coûte le bouclier fiscal permettent à la France de continuer à recevoir l'impôt de gens qui sinon seraient partis. Et encore une fois, ne comptez pas sur moi pour avoir une vision marxiste de l'impôt. L'impôt, c'est pas Robin des Bois, hein. C'est pas on sanctionne les riches pour donner aux pauvres.
J'ai pas parlé de sanctions, mais normalement il y avait...
Vous aimeriez quoi? Parce que votre question, elle est vachement démago. C'est ah oui, il faudrait que Liliane Bettencourt paye plus d'impôts. On peut toujours payer plus d'impôts. Mais à un moment donné, moi je me rappelle, je regardais quand j'étais tout petit combien ça coûte. Je crois même qu'il y avait un mec comme Charles Aznavour qui disait qu'il en avait marre de payer des impôts. Donc voilà, c'est pas. On connaît même des artistes de gauche qui se sont barrés pour. Par exemple, Florent Pagny qui s'est barré ailleurs dans le monde pour. Voilà.
Il est de gauche, Florent Pagny?
Je sais pas, ouais, j'ai plutôt l'impression, non? Dire ah oui, un tel il paye plus qu'un autre, c'est créer. C'est opposer les gens les uns aux autres et c'est pas très pertinent.
Et le panneau il est là.
Donc c'est voilà.
Le panneau il est là.
On a un super panneau qui nous attend. Énorme.
Trop de taxes, trop de dons. Trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots aussi. Je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'ils veulent aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. Sans critiquer notre politique, bon sens, ça craint. Trop de gens se plaignent de nos politiciens qui se tuent la vie tous les jours comme des chiens à se préoccuper du bien-être de tous les citoyens. La politique appartient à celui qui veut la paix et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité. Ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots aussi. Je voudrais que les gens reprennent vie, que
il nous faut décider d'un programme d'action innovant, courageux, ambitieux. Cela suppose, je n'hésite pas à le dire, un tournant majeur dans nos politiques économiques et sociales. Il n'y a pas de fatalité.
Tous les tracts de Nicolas Sarkozy sont par terre.
Moi je trouve que c'est un manque de respect à l'égard de la démocratie, quoi. La démocratie, c'est du dialogue, et là, bon...
Vous nous parlez de démocratie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre majorité parlementaire? Vous êtes en train d'imposer au pays une loi qui est massivement rejetée par la population.
Elle a été élue, cette majorité parlementaire, et elle a été élue pour agir. Elle a été élue pour dire la vérité aux Français, et la vérité, c'est qu'on ne peut pas continuer à aller dans le mur comme ça, avec des déficits qui s'accumulent en permanence.
Sarkozy a dit lors de la campagne électorale qu'il ne toucherait pas à la retraite à 60 ans. Est-ce qu'il a été élu pour saboter la retraite à 60 ans? Absolument pas. Il a voulu simplement obéir aux diktats des marchés financiers qui s'inquiètent des déficits provoqués par leur propre crise. C'est ça qui est scandaleux. Et ne nous parlez pas de démocratie dans ces conditions. Et il est vraiment temps que la rue mette un terme à cette situation où vous pouvez continuer à vous pavaner alors que vous êtes redevable d'un gouvernement de corrompus. Et de privilégier.
Je n'accepte pas l'injure, personnellement. Je n'accepte pas l'injure.
Non, c'est vous qui êtes une insulte permanente à la population de ce pays.
Merci à tous et à toutes. C'était un reportage de Pascal Pascardiello, François Ruffin et Inès Leroux. Merci à Thomas Coutreau, coprésident d'Attac. Merci à Gabriel et Eric de Sudrail, ainsi qu'à Benjamin Lancard et au jeune pape. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et vous pouvez retrouver une vidéo de François Ruffin se convertissant à la propagande UMP filmée par les mutins de Pangée sur notre site là-bas.org, là-bas.org. Et puis une chose très importante que j'ai à vous annoncer le mercredi 29 septembre à 18h, ce sera l'enregistrement de l'émission mensuelle avec le monde diplomatique. Pour venir à l'enregistrement qui aura lieu à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple à Paris dans le 10e, pour venir à l'enregistrement, envoyez un mail avec votre nom et le nombre de places souhaitées à l'adresse suivante. Attention, lediplo@gmail.com. Le diplo à la Java, tout attaché. lediplo@gmail.com. Voilà, et vous, on aura le plaisir de se voir donc lors de cet enregistrement. La technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Pierrick Mossigny. Koye Nguyen a réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attends vos messages au répondeur de la base J'y suis, ça va chauffer, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
MAF Assurance, bonjour.
Quige, la MAF offre une réduction sur la première cotisation santé égale à deux fois l'âge de l'assuré.
Eh oui, à partir de 50 ans, moins 100 euros, 60 ans, 120 euros, etc.
Miss MAF, avec vous, le temps c'est de l'argent. C'est valable aussi pour les professionnels?
Bien sûr, depuis toujours, MAF assure la santé des particuliers et des professionnels.
Miss MAF, aujourd'hui je suis heureux d'avoir mon âge.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la MAF.
Offre valable jusqu'au 31 octobre 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût selon opérateur.
Moi, je suis boulanger et j'aime bien pétrir mes idées.
Je suis fleuriste et j'ai des choses à dire autrement qu'en langage des fleurs.
Je suis dans l'énergie solaire et de l'énergie, j'en ai à revendre pour protéger mes intérêts.
Ensemble, nous sommes la première entreprise de France. Voilà pourquoi nous voterons pour les représentants locaux et nationaux qui défendent notre passion et nos intérêts. Lors des prochaines élections aux chambres de métiers et de l'artisanat, du 28 septembre au 13 octobre 2010, vous aussi, votez. Chambre de métiers et de l'artisanat, agir pour réussir.
Bonjour, Caroline de Tabac Info Service. Je vous écoute.
Bonjour, voilà. Ma femme a réussi à arrêter de fumer il y a un an, mais pas moi. Alors depuis, elle insiste pour que je réessaye, mais...
Je comprends. Pourquoi ne pas profiter de vos prochaines vacances? Le changement de rythme est idéal pour arrêter. Moins de stress, on fait du sport, on dort...
Mais je vais devenir invivable, moi.
Non, non, vous savez, il y a des solutions pour limiter le stress. Vous voulez qu'on voit ensemble ce qui n'a pas marché la dernière fois?
Vous voulez arrêter de fumer? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
16h01 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, les infos, Corinne Audouin. Salut.
Le premier procureur de France, Jean-Louis Nadal, demande la saisine d'un juge d'instruction pour poursuivre les investigations dans l'affaire Woerth-Bettencourt. En revanche, le magistrat estime qu'il n'y a pas lieu à ce stade de saisir la Cour de justice de la République, seule habilitée à juger un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Fausse alerte à la gare Saint-Lazare. Une partie de cette gare parisienne qui dessert notamment la banlieue ouest a été brièvement évacuée peu avant 14h. Les forces de police ont établi un périmètre de sécurité autour d'un colis suspect. Le trafic a été interrompu pendant une demi-heure. Au final, aucun explosif n'a été trouvé. Les étudiants vont-ils rejoindre le mouvement de protestation contre la réforme des retraites? C'est ce qu'espère l'UNEF. Le premier syndicat étudiant lance aujourd'hui une campagne nationale. 30 000 tracts, 50 000 affiches, des assemblées générales dans les universités. Tout est bon pour inciter les étudiants à participer plus nombreux aux prochaines manifestations des 2 et 12 octobre. Avec un slogan choc, étudiants à 20 ans, chômeur à 25 et toujours précaire à 67 ans, non merci. L'Union nationale lycéenne appelle également les lycéens à se mobiliser. À Caen, l'hôpital Truffé d'Amiante va être reconstruit. C'est la ministre de la Santé Roselyne Bachelot qui l'a annoncé lors d'une visite sur place. Le CHU de Caen a le troisième plus gros déficit hospitalier de France, en partie à cause de l'amiante. Les travaux commenceront d'ici 2 ans et le nouvel hôpital ouvrira 8 à 10 ans plus tard. Les supputations sur son avenir ne perturbent n'aborde pas le Premier ministre. En marge d'une visite à l'hôpital de Percy à Clamart, François Fillon a rappelé que son horizon, c'était le service des Français et rien d'autre. Le monde politique bruisse de rumeurs autour de son possible départ de Matignon lors d'un remaniement prévu d'ici à la fin de l'année. Aux côtés de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne en visite à Paris, Nicolas Sarkozy demande que l'Union européenne et l'Union pour la Méditerranée participent aux discussions de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour le président français, il y a un problème de méthode dans les pourparlers actuels conduits par les seuls Américains. Nicolas Sarkozy rencontrera en octobre à Paris le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que Mahmoud Abbas et le président égyptien Hosni Moubarak, et ce pour préparer le prochain sommet de l'Union pour la Méditerranée prévu fin novembre. Le président du Kosovo démissionne. La Cour constitutionnelle du pays estime qu'il ne peut pas cumuler son poste de chef de l'État avec la direction de son parti. La démission de Fatmir Sejdiou pourrait déstabiliser la préparation des pourparlers entre l'ancienne province serbe, indépendante depuis février 2008, et Belgrade. Surveiller Internet pour déjouer d'éventuels attentats terroristes, c'est l'enjeu d'un projet de loi que prépare le gouvernement américain. Selon ce texte, les autorités pourraient surveiller tous les services en ligne permettant de communiquer, comme par exemple des données cryptées envoyées depuis un BlackBerry ou encore des sites comme Facebook.
Tous les jours, à partir de 11h,
le fou du roi,
Stéphane Bern.
On va vous régler votre micro parce que tant qu'à faire, autant que les auditeurs vous entendent dire vos bêtises.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 105 avec Isabelle Mergaud et Jacques Malaterre, rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Ah ben oui, moi j'aime beaucoup, figurez-vous.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Coupé !
Le Fou du Roi, Stéphane Bern, tous les jours sur France Inter à partir de 11h.
France Inter, partenaire de l'exposition Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle au musée Jacquemart-André à Paris. 60 tableaux présentent une vision inédite de deux grands mouvements artistiques, la peinture baroque flamande et l'école classique française. Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle au musée Jacquemart-André en partenariat avec France 3, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, partenaire du hors-série Télérama Claude Monet. À l'occasion de l'exposition Claude Monet du Grand Palais, Télérama consacre un hors-série à l'inventeur de l'impressionnisme et nous révèle aussi l'homme intime, chef de tribu, ami fidèle, passionné de course automobile. Claude Monet, un hors-série Télérama actuellement disponible et à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon, c'est Carrefour de Lodéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il y a eu pas mal de mouvements ce matin, vous avez entendu le 7-9, ben nous serons nous aussi à Grenoble demain pour célébrer le travail du musée en musique avec pas mal d'artistes, je donnerai les précisions un peu plus tard, mais pour l'instant une nouveauté, elle ne sera pas avec nous ce jour-là mais elle est souvent dans notre cœur, Vanessa Wagner qui malgré son nom est bien française et qui propose Franz Schubert, un enregistrement tout à fait sensible et elle nous dit, un de mes premiers souvenirs ça a été d'avoir entendu résonner dans ma maison natale, les Impromptus. On va entendre de ce catalogue Deutsch, ça c'est le numéro de catalogue 899, le deuxième tout à l'heure, interprété donc ces Impromptus par Alfred Brendel. C'est vraiment lié à mon enfance, la musique de Schubert a nourri mon imaginaire, il ne m'a jamais plus quitté depuis, m'accompagnant fidèlement de sa profonde mélancolie, tel un écho intérieur, toujours prête à s'évanouir. Deuxième des quatre Impromptus, Deutsch 899 de Franz Schubert par Vanessa Wagner.